à Auray, parce qu'il revient d'une assemblée générale de paysage de mégalithes. Donc, il aura peut-être 5 à 10 minutes de retard. Donc, si vous en êtes d'accord, on va attendre un petit peu. Et si c'est trop long, on commencera les hostilités.
Je vais juste en profiter. Vous avez un petit document là qui vous a été remis sur la table, qui est une petite modification au niveau des APCP et des autorisations de paiement. Sur deux APCP, il y avait une petite erreur dans ce qui vous a été remis. Donc on vous a amené un tableau récapitulatif. Le montant des APCP ne change pas, c'est juste les autorisations de paiement par rapport aux années.
Bien, on va peut-être procéder à l'appel, si vous êtes d'accord, en attendant. Hein. Monsieur Olivier Lepic, on verra après. Monsieur Olivier Bonduel, pouvoir de Monsieur Marc Lerozic, c'est ça? Madame Marie-France Bagarre. Monsieur Marc Lerozic. Madame Christine Lamandé. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Jeannine Le Golvan. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bietri. Madame Marie-Vonne Belleil. Monsieur Philippe Audeau. Absent. Madame Catherine Isoard, Monsieur Patrick Lotodé, Madame Christine Desjardins. Ça, il y a du laisser aller. Monsieur Michel Durand, présent. Madame Morgane Petit, présent. Monsieur Gérard Marc Albert, Madame Karine Le Déveat, pouvoir Monsieur Olivier Lepic, quand il sera là. Monsieur Hervé Le Donnant, absent. Madame Monique Thomas, absente, ne regarde pas. Madame Armelle Moreau, absente. Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Nadine Rouet, Monsieur Pascal Lejean, présent. Monsieur Loïc Houdois, Madame Sylvie Robineau, présent. Monsieur Paul Chapelle, et on attend donc Monsieur le maire. La secrétaire de séance, je propose la Benjamin, qui devrait être, sauf erreur, Madame Morgane Petit. Acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Non, c'est pas net. Bien. Allez, si vous êtes d'accord, on va essayer d'avancer un petit peu. Hein. Donc, deuxième point, l'approbation du procès verbal du Conseil. Oh, j'ai pas dit bonsoir à tous, hein, le maire le redira tout à l'heure. Ça compte quand même. Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2019. Donc, vous l'avez tous. Est-ce qu'il y a des observations à formuler? Pas d'observation? Très bien. Donc, on va attaquer le compte rendu des décisions du maire, point numéro 3. Alors, y a-t-il des remarques sur les comptes rendus des décisions du maire, de 127 à 147 ? Avez-vous des questions ? Pas de questions particulières. Bon, on passe au point numéro 4. Monsieur Lejean, budget principal de la commune, exercice 2019. Décision modificative numéro 3.
Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'approuver la décision modificative numéro 3 du budget de la commune. En dépenses et en recettes de fonctionnement, 574 500 euros. Et en dépenses et en recettes d'investissement, 272 000 euros. Il s'agit essentiellement en dépenses de fonctionnement, 87 000 euros qui sont sur le... en charge à caractère général, dont 28 000 euros de dépenses imprévues en fonctionnement et des modifications au niveau des opérations d'ordre de transfert. Sur les 28 000 euros, vous avez 20 000 euros qui correspond à un rappel d'EDF sur l'école des Corrigans. Donc on a eu une problématique, EDF a effectivement s'est aperçu d'une erreur qu'ils avaient oublié de facturer une partie sur un compteur d'EDF à l'école des Corrigans depuis 10 ans. Donc ils nous ont demandé 45 000 euros de rattrapage qu'on a refusé puisqu'ils ne pouvaient revenir que 4 ans en arrière. Donc on a négocié à 20 000 euros. Donc effectivement ce n'était pas dans le budget de la commune. Et autrement, une opération d'ordre qui est de l'ordre de 67 000 euros, qui est due tout simplement à l'éclairage, à la facturation du SDEM pour l'éclairage du foyer logement, qui sera refacturé au foyer logement, donc qui avait été budgétisé en investissement et qui doit passer en fonctionnement puisque c'est refacturé derrière. Sur les montants en investissement, c'est 250 000 euros qui sont surtout pour les travaux en régie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que les gens s'opposent ?
Il n'y a pas de questions. Donc je soumets à l'approbation la décision modificative numéro 3 de l'exercice 2019 du budget principal de la commune. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Pas d'abstention, je vous remercie. Point numéro 5. Autorisation des APCP, modification des crédits de paiement 2019. Monsieur Lejean, pour la suite.
Donc on vous a remis un petit tableau sur les APCP. C'est une modification sur les crédits de paiement entre les deux années 2019 et 2020, où effectivement il y a un montant supérieur sur l'APCP numéro 1 qui correspond à la liaison Nord-Église-Liaison-Bourg pour 115 000 euros qui est prévu en dépenses supplémentaires en 2019 et qu'on retrouve 115 000 euros en dépenses en moins en 2020 par rapport à l'avancée des travaux. Et sur le restaurant scolaire, où effectivement, là, vous avez un décalage de 100 000 euros. Je vous rappelle que les montants sont identiques que des APCP.
Bien, je pense que vous avez eu l'occasion d'étudier ces tableaux en détail. On vous propose d'accepter la modification de la répartition des crédits de paiement et de modifier la répartition des crédits de paiement de l'opération numéro 2, construction du restaurant scolaire. Autoriser le maire à signer tout document afférent à l'exécution de la présente délibération et préciser que les dépenses seront financées par autofinancement. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? 3 abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 6, toujours Monsieur Lejean, budget principal, délibération budgétaire spéciale.
Donc c'est ce qu'on appelle la DBS qui permet d'ouvrir des crédits de paiement pour les investissements sur le premier trimestre 2020, le temps que le vote du budget primitif soit voté. Donc vous avez le détail par rapport, donc il est possibilité d'engager 25% des montants budgétisés pour l'année 2019 pour le premier trimestre 2020. Donc, suite avec les services, alors dans ces 25%, on a budgétisé 571 350 euros. Dedans, il faut rajouter les APCP, puisqu'elles sont à part. Elles ne font pas partie de la DBS. Ce qu'on vient de voir avant.
Y a-t-il des remarques sur cette décision, enfin, sur cette DBS, hein, c'est assez classique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pas d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Décision. Point numéro 7, budget du musée. Délibération budgétaire spéciale de nouveau. Monsieur Lejean.
Donc c'est exactement la même chose que pour la commune, hein. C'est pour pouvoir réaliser des investissements sur le premier trimestre 2020 avant que le budget soit voté. Et donc là, il est proposé pour 38 596 euros 75 cents.
J'ai un peu mélangé. J'ai fini. Monsieur Lejean, merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Point numéro 8, Office du tourisme, avenant la convention de reversement de la taxe de séjour. Monsieur Lejean.
Donc c'est comme tous les ans, c'est l'avenant de la convention de reversement de la taxe de séjour en avance, donc ce qui permet d'avoir la trésorerie et d'engager les dépenses au niveau de l'Office du tourisme. Donc il est proposé de garder les mêmes montants qu'il y avait l'année dernière, c'est-à-dire 510 000 euros qui est versé par trimestre. Ou par tranche trimestrielle.
Bien, pas d'observation sur cette modalité de paiement classique. Monsieur le maire, bonsoir. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Madame Le Goulevent, Madame Bagarre, Monsieur de Ripert. Bien, je vais laisser Monsieur le maire prendre la suite.
D'accord, excusez-moi pour mon retard. Je préside à l'association Paysages de Mégalithes et le préfet nous a fait la surprise de venir assister à l'Assemblée avec une bonne surprise, en plus 100 000 euros de subventions supplémentaires, ce qui a provoqué un peu l'euphorie et on a dépassé le cadre qu'on s'était fixé, à savoir de se terminer à 18 h plus accident sur la voie express. Mes excuses, j'aime pas beaucoup ça. On est au point 9, donc je propose de passer au point 10.
Non, le 9, c'est au point 8, il faut passer au point 9.
Ah d'accord, pardon. Donc le point 9, il faut que je retrouve dans mon dossier. Le voilà. Monsieur Lejean, sur la durée d'amortissement?
Oui, donc c'est juste d'abroger les libérations du 29 mars 1996 et du 28 mars 2002 et du 26 mars 2010, à compter du 1er janvier 2020. Donc, pour les durées d'amortissement des immobilisations, donc vous avez un petit tableau derrière qui reprend effectivement toutes les durées d'amortissement. On a recalculé, on a essayé d'en faire, d'en limiter le nombre, mais maintenant, la M14 nous impose un minimum. Avez-vous des questions?
Pas de questions sur ce sujet un peu technique. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a des abstentions. Je vous remercie, Monsieur Lejean, toujours cette fois-ci sur la demande de honorablement d'exploiter les jeux du Casino Circus.
Oui, comme vous savez, la DSP du Casino Circus arrive à échéance le 20 juin 2020, et donc nous sommes en renégociation au niveau de la DSP, et donc il faut envisager le renouvellement de l'autorisation des jeux. Et qu'on doit passer en conseil municipal. Donc vous avez le détail de la modalité des appareils que souhaite renouveler le casino.
Il y a des questions ou des commentaires sur ce rapport? Je vous propose donc de passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Quelques rapports déchirants maintenant, Monsieur Lejean, puisqu'il s'agit d'extinction de créances.
Oui, donc le point numéro 11, une extension de créance suite à une insuffisance d'actifs, donc avec l'administrateur judiciaire Armel Charroux. Effectivement, il est demandé d'annuler pour 344 euros.
Des questions? C'est toujours triste, mais en général, le trésorier est allé jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Deuxième extension de créance, Monsieur Lejean.
Donc là, c'est pour... Tant que la première, c'était pour une activité économique. Là, c'est procédure de rétablissement personnel et donc de constater un montant de la créance de 582,41 €. Là, pardon, j'ai dit 300
782,41,
oui,
c'est ça?
Oui, 782,41, excusez-moi.
Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, le rapport d'activité et les comptes annuels 2017-2018 du tennis de Beaumaire.
Donc, le tennis de Beaumaire, pareil, un renouvellement de l'ADSP qui arrive en cours. Donc, on a un rapport d'activité pour la saison 2019, avec une évolution par rapport à 2018 en termes de salariés, puisqu'il y a eu un peu plus de salariés sur l'activité 2019 que 2018. Donc il y a un CDD et demi qu'il y avait en 2018 sur les vacances de Pâques pendant 15 jours, ils sont passés à 2. Il y avait 4,5 CDD pendant la période estivale, ils sont passés à 5. Donc ça c'est pour l'activité du personnel. L'activité d'exercice est en hausse de 14%. Je vous rappelle qu'en 2018, nous avons investi à la demande de l'exploitant sur des paddles et donc qui a permis effectivement de développer le chiffre d'affaires au niveau du tennis de Beaumaire, puisque les paddles qui représentaient, qui étaient quand même en activité pour l'été 2018, représentaient 8 000 € de chiffre d'affaires en termes de location. Cette année, sont passés à 18 000 €. Sur l'ensemble de l'activité, une augmentation de 27% du CA, surtout sur les locations de cours, donc qui a permis de continuer de croître l'activité. Par contre, l'activité des jeux et tournois sont en baisse, hein, un petit peu comme dans la plupart des clubs. Sur les autres points importants, les points forts retenus du club sont la qualité du site, hein, l'emplacement, les espaces, l'entretien, proximité plage, le parking, la qualité des terrains, le professionnalisme et la stabilité du staff, les compétitions et les animations proposées, les services proposés et les activités annexes proposées, puisqu'il y a des activités annexes. Hein, je vous rappelle qu'il a une boutique, qu'il a un bar, qui fait aussi un petit peu de l'activité yoga. Les axes à améliorer sont un plus grand nombre d'animations proposées, ça c'est la demande effectivement des utilisateurs. La notoriété du tournoi senior de juillet, donc voir comment on pourrait améliorer cette notoriété. La création de tournois de tennis multichance hors saison. Le développement des tournois de paddle homologués et amicaux. Et le développement de tournois des familles en août. Voilà rapidement l'activité, le rapport d'activité pour le tennis, différentes demandes de travaux qui ont été faites, hein, des travaux permanents d'entretien des espaces verts, mais ça on continue avec les services techniques, de réparation de l'ouvrage par le fermier, donc ce que fait aujourd'hui effectivement Christophe Coin. Là, on a par contre besoin, et urgemment sans doute, de prévoir la rénovation du système d'arrosage sur les cours. Après, on aura besoin d'améliorer le bâtiment d'accueil, puisque le bâtiment n'a pas eu effectivement d'entretien depuis quand même un certain nombre d'années. Quelques remplacements de grillage sur les cours 1 et 2. La rénovation des portes des cours par les services techniques qui est prévue. Réaménagement de l'espace boutique qui sera, lui, financé par le fermier. La rénovation de l'intérieur du club house financé par le fermier. Donc, si vous voulez, le but, c'est qu'on finance, nous, le bâtiment, les murs, comme propriétaire. Et qu'effectivement, pour tout ce qui est aménagement intérieur, c'est l'exploitant qui le fait. Donc là, on est, comme tous les ans, en discussion avec lui. On va d'abord laisser que la nouvelle DSP arrive à échéance et qu'on ait une nouvelle DSP pour pouvoir envisager effectivement les travaux à faire. Ceci dit, ça n'empêche pas de les provisionner, au moins dans les comptes. Sur les comptes de l'activité, donc je vous rappelle que Christophe Cointe exerce sous le nom de la société SARL Notice. On a une société qui a une activité qui ne dégage pas des résultats extraordinaires. L'exploitant n'a pas une rémunération extraordinaire. Par contre, on a l'avantage d'avoir quand même une société qui est bien gérée avec des fonds propres importants, puisque c'est une société qui a près de 66 000 € de fonds propres. Donc, c'est-à-dire que ça nous garantit une stabilité pour le futur. Alors qu'on a un résultat qui est dégagé à la hauteur de 6 000 € d'exploitation pour une rémunération du gérant à la hauteur de 14 000 € sur l'année, pour les principaux chiffres.
Il y a des questions sur ce rapport. Je pense que tout le monde est attaché au tennis de Beaumer. Je ne sais pas s'il y a des tennismen ou women au sein du conseil municipal, mais pour avoir participé au tournoi de... Comment s'appelle ce...
De paddle.
Je trouvais que le club était plutôt bien tenu, voire très bien tenu. Et puis, je trouve que cette nouvelle activité est intéressante. On a la chance d'avoir M. Cointre. Je pense que c'est vraiment une chance parce que, d'abord, c'est un acteur local. Et ensuite, pour l'attractivité de la station, cette infrastructure est vraiment importante. Et il faut la faire vivre. Et effectivement, quand on regarde son compte d'exploitation, c'est pas vraiment une mine d'or pour l'exploitant. Donc, je crois que la commune a tout lieu de se féliciter de cet exploitant, en tout cas. D'accord. Donc, on prend simplement acte de ce rapport d'activité. Il n'y a pas de vote. Donc, je vous remercie d'avoir pris acte. S'il n'y a pas d'autres questions de ce rapport d'activité des comptes annuels 2017-2018 du Tennis Club de Beaumer, je passe la parole à M. Chapelle pour l'appel à projet d'amélioration des centres-bourgs dont la commune a gagné.
Voilà. Non. Oh, voilà. En fait, je vous rappelle, on avait candidaté pour l'appel à projet dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs. C'est une opération qui a été d'ailleurs relancée par la loi Élan en fin novembre 2018 pour vraiment inciter les communes à revitaliser leur territoire, notamment les bourgs ruraux. Donc la commune a candidaté, comme vous le savez, dans le cadre du cycle études, puisqu'on a à la fois le cycle études et le cycle travaux. Donc là, il s'agit simplement de retenir un bureau d'études qui va répondre au cahier des charges, qui porte sur les différents thèmes qui dépendent de cet appel à projet, à savoir l'habitat, l'économie, la mobilité, qui est peut-être le facteur parmi les facteurs les plus importants, et également le patrimoine. Alors, je vous rappelle un peu le but de cette étude. Il ne s'agit pas de refaire toutes les études que l'on a déjà, qui ont été faites par la commune depuis de nombreuses années, que ce soit au titre de la rénovation du bourg, que ce soit au titre de l'aménagement du boulevard de la plage. Il y a eu des études de circulation, il y a eu des études dans le cadre du commerce. Il s'agit en fait de mettre en musique tout ça, de façon à avoir un développement cohérent de l'ensemble de la commune et de valoriser notamment les circulations, les mobilités. Il y a aussi évidemment le contexte UNESCO qui nous a amené aussi à candidater. Je pense que le préfet et les sous-préfets nous y ont vivement incité également. Donc comme il est acté qu'il y a des aides pour une dotation maximale de 50 000 euros. Les aides se décomposent, sont versées par nos différents partenaires, l'État, la région et ACTA. ACTA participant à hauteur de 7 500 euros. Cette étape consiste à lancer un appel d'offres pour trouver un bureau d'études qui nous permette de faire un peu le travail de synthèse entre tous les documents existants. Et il ne s'agit pas de définir des travaux à mener, il s'agit de définir, c'est un peu comme un PADD, il s'agit de définir des objectifs d'aménagement en termes d'habitat, de trouver une cohérence en matière de mobilité, d'intégrer également les OAP, les futurs projets d'urbanisme et d'habitat, pour qu'ils ne soient pas en contradiction avec la valorisation du centre-bourg. Finalement, pour que tous les aménagements qui sont prévus, à la fois la plage, à la fois le bourg, la campagne, les mégalithes, que tout ça se fasse dans une certaine cohérence. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours il ne s'agit pas de travailler site par site, mais de bien intégrer les futures réalisations de Carnac pour essayer de valoriser justement ce centre-bourg. Donc on verra bien ensuite quels seront les résultats. En tout état de cause, on aura une aide de 50 000 euros. Je sais que l'État et le département, surtout la DDTM, nous a incité évidemment à avoir un budget conséquent pour faire ces études. Donc pour l'instant, on ne peut pas diffuser officiellement le montant puisqu'on va fausser l'appel d'offres, mais on a parlé en commission d'un budget quand même... beaucoup plus raisonnable que les 200 000 euros qui ont été suggérés par le département.
C'est vrai qu'on a subi une pression amicale du préfet sur ce dossier. Et je pense que l'un des prismes importants de cette étude, ce sera dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, de travailler sur les aménagements et la mobilité en amont du bourg, et notamment sur les flux de circulation, puisque aujourd'hui on sait très bien que cette situation n'est pas vraiment satisfaisante. Et donc ce sera une partie très importante de l'étude, de regarder comment on peut essayer d'améliorer la situation présente en termes de gestion des flux, circulation, accès à notre bourg, puisque l'accès au bourg, vous le savez, à la plage sont déterminantes pour, notamment pour le petit commerce. Et donc le préfet nous a vraiment chaleureusement, et je pense qu'il a été sûrement, il a joué un rôle important dans le fait que nous ayons remporté, nous ayons été désignés, parce que ce sont des problématiques qui, effectivement, il faut traiter bien en amont de l'inscription, parce que, effectivement, même si les chiffres qu'on évoque de plus 30% de fréquentation sont complètement farfelus, et ça ne sera jamais des fréquentations aussi importantes, on a quand même besoin de réfléchir, compte tenu de la situation actuelle qui est absolument non satisfaisante au Ménec et ailleurs, eh bien aux aménagements qu'il conviendra de réaliser pour rendre l'expérience à la fois de visite des sites, mais également les flux de circulation qui sont entrants dans la commune, parce que c'est absolument fondamental pour notre commune, son centre-bourg, mais également en Carnac-Plage. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe, monsieur Houdois, rapport numéro 15 sur le musée de la préhistoire. Demande de subvention.
Oui, donc demande de subvention auprès de la DRAC et du conseil départemental pour poursuivre et sans doute finaliser l'inventaire récollement du musée et puis engager de nouvelles actions culturelles. Donc pour rappel, hein, c'est à la demande de ces deux institutions que les montants ne figurent pas sur le bordereau. Je vais néanmoins vous donner les montants. Donc l'inventaire récollement, on est à 24 280 euros TTC. Les actions culturelles, c'est pour 14 761 euros. Et les actions à destination d'un jeune public pour 26 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? En général, pour les demandes de subvention, l'unanimité est de rigueur. Tout le monde est d'accord ? Monsieur Houdois, toujours une demande de subvention.
Donc, demande de subvention, toujours pour le musée, mais cette fois-ci auprès du Pays Doré, pour obtenir des financements auprès de l'Europe par l'intermédiaire du programme Leader. Donc, il s'agit de la création en fait, d'un espace à l'étage du musée entre la partie consacrée au néolithique et la partie gallo-romaine, spécialement destinée au public jeune, avec un espace assez confortable et puis un espace de dessin, de lecture, et puis avec aussi un aspect un petit peu numérique, tactile, etc. Donc le coût est 44 300 euros TTC et on peut obtenir une subvention à hauteur de 80% par l'intermédiaire de ce programme.
Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Houdois, la création d'une association de valorisation du patrimoine sous l'égide d'ACTA.
Oui, donc là, il s'agit de se prononcer sur l'adhésion de la commune à une nouvelle association à vocation intercommunale, dont l'objet est la valorisation du patrimoine religieux du Pays Doré, mais également de son patrimoine militaire. Et donc la contribution de la commune de Carnac serait de 2300 euros. Et donc il s'agit donc de se prononcer à la fois sur l'adhésion de la commune à cette association, mais également de désigner un représentant de la commune au sein de cette association.
Alors sachant que ce représentant risque de ne siéger qu'une fois ou même pas du tout, d'après ce que j'ai compris, puisque évidemment les représentants seront renouvelés après les élections municipales. Loïc, est-ce que tu te dévoues ?
Oui, tout à fait.
À moins qu'il y ait un autre candidat, mais je pense que on peut laisser M. Houdois qui s'est chargé du dossier représenter la commune. Encore une fois, je ne sais pas si tu seras amené à siéger ne serait-ce qu'une seule fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Écoutez, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à une autre demande de subvention. Cette fois-ci, elle concerne l'orgue de Saint-Cornélie. Vous le savez tous, pour ceux qui ont eu l'occasion d'assister au concert organisé il y a quelques semaines dans le cadre du Festival national de l'orgue lors de la réunion à Vannes de l'association des orgues de France. On a un orgue absolument extraordinaire à Saint-Cornélie, un orgue qui a une histoire elle aussi extraordinaire puisqu'il n'a pas été installé à Saint-Cornélie initialement, mais dans une autre église. Il a longtemps été à Saint-Andoré avant d'être transféré et installé à Carnac. Et donc, cet orgue a été restauré la dernière fois, je crois, dans les années 70. Et il a vraiment besoin d'une restauration importante. Et donc, ce rapport consiste à vous demander votre autorisation pour solliciter l'aide du Conseil départemental, du Conseil régional et de la Direction des affaires culturelles, de la DRAC, pour l'étude préalable qui consistera à mettre en œuvre une mission de maîtrise d'ouvrage pour la restauration de l'orgue de Carnac, sachant que les travaux de restauration sont estimés par l'expert qui est déjà venu faire son rapport préliminaire sur l'état de l'orgue, s'élèverait donc cette restauration à un montant qui serait compris entre autour de 170 000 euros hors taxes. Ce qui n'est pas négligeable. On obtient en général des subventions qui sont assez élevées pour ce genre de travaux, hein, entre 20 et 40%, mais c'est souvent 40%. Et donc, je vous demande de m'autoriser à lancer cette consultation afin de mener cette étude préalable qui pourra mener donc à la restauration de notre orgue. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si vous avez pu assister au concert. On a eu la chance d'avoir l'organiste de Notre-Dame de Paris, qui est privé de son orgue, vous l'imaginez bien en ce moment, même si l'orgue n'a pas souffert de l'incendie. Et c'était assez incroyable d'avoir... On a une très bonne organiste en ce moment, mais c'était assez incroyable de pouvoir assister à un concert avec l'organiste de Notre-Dame à Saint-Cornélie. C'était un moment assez, assez fabuleux. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapidement, vous avez tous, j'imagine, pris rapidement connaissance du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Je n'ai pas de remarques particulières. Est-ce qu'il y a, on doit en prendre connaissance, hein, il n'y a pas de vote formel sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles sur ce rapport ? Pas de questions. Donc, je considère que le conseil municipal donc a pris connaissance, a pris acte de ce rapport. Dans la même veine, toujours avec ACTA pour le rapport suivant, une convention d'assistance sur la numérisation et la mise en ligne des documents d'urbanisme sur Géoportail. C'est une mutualisation informatique qui est portée par ACTA et qui permettra aux communes de l'intercommunalité de bénéficier donc de cette convention d'assistance à la numérisation qui va nous permettre donc de mettre, même s'ils sont déjà numérisés pour la plupart d'entre eux, et bien mettre sur un outil commun à toutes les communes de l'intercommunalité nos documents d'urbanisme et les différentes couches que vous connaissez pour ceux qui ont à traiter de l'urbanisme. Et cette convention donc porte sur donc un géoportail et donc elle porte sur l'autorisation donnée par la commune et bien d'installer l'ensemble des données de la commune sur ce géoportail intercommunal. Est-ce qu'il y a des questions ou des... C'est de la bonne mutualisation. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, classement de la parcelle AP917, avenue du Roer, dans le domaine public.
C'est une parcelle qui avait été alignée depuis de nombreuses années, mais ça n'avait pas été fait sur le terrain. Donc il y a 112 mètres carrés qui vont être réalignés sur l'avenue du Roer. Et comme on est en train de faire l'élargissement en face, puisqu'on a aligné de l'autre côté, on va arriver au bout d'un moment à ce que l'avenue du Roer soit aligné d'un bout à l'autre, qui nous permettra justement de faire des travaux dedans et refaire un cheminement en piéton. Ça avance petit à petit, il reste encore un ou deux, mais on va y arriver.
Il reste combien de trottoirs ? Parce qu'en fait, c'est quand même une avenue où je pense, les Carnacois nous... Oui. D'abord, elle est souvent sous l'eau dès qu'il pleut. Elle n'est pas terrible en matière de cheminement piétonnier, parce que justement, il y avait ces alignements. Et donc,
il en reste un. Pour moi, il en reste un après.
D'accord.
Donc ça ne devrait pas tarder, puisque le propriétaire est prêt à faire l'alignement, donc ça ne devrait pas tarder.
D'accord. Je pense que ce ne serait pas du luxe de refaire
dès que ce sera fini, les trottoirs seront refaits, et puis les stationnements seront refaits, tout sera prévu.
Voilà. Ok. Il faudra que M. Lejean donne son accord, enfin, ou la prochaine municipalité, pour faire parce qu'il y a des sous pour le faire.
Pour l'instant, on aligne.
Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet alignement? J'imagine que tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Toujours Monsieur Marc Albert, rapport numéro 22, aménagement du giratoire du Nignol.
Il y a marqué convention de passage, mais ce n'est pas convention de passage. On en avait parlé en commission de travaux. C'est que lorsqu'un rond-point est fait hors agglomération, pour mettre des passages piétons autour du rond-point sur la route départementale, il faut demander une autorisation au département. Donc c'est juste une demande d'autorisation au département de mettre des passages piétons sur la route départementale de façon qu'il y ait des passages piétons partout. Comme il y aura deux arrêts bus pour que les enfants des écoles puissent prendre leur bus le matin et le soir de chaque côté et qu'il y a des campings pas loin, il y aura des stationnements vélo pour que les gens puissent prendre la carnavette quand il sera fini. Donc on a demandé au département de nous faire une convention qu'ils font régulièrement. Hein. Et donc voilà, on a parlé ça en commission de travaux. Donc après, on a vu, il n'y a pas de problème, ils sont OK.
Vous pouvez nous rappeler pour les conseillers municipaux curieux le calendrier d'exécution, monsieur
Le Martin calendrier d'exécution, on a commencé les travaux, vous avez dû voir, les semaines dernières. Les effacements de réseau auraient dû être faits, électriques aussi, sauf que dans la pré-étude, on ne nous avait pas fait remarquer qu'il y avait un câble de fibre optique qui relie l'antenne qui est au moustoir au relais qui permet justement de capter toutes les communications. Donc du coup, pour enlever cette fibre optique, il faut un mois et demi. Il faut demander aux opérateurs, parce que le jour où on va couper la fibre optique pour la rebrancher, pendant ce temps-là, les communications ne passeront pas. Donc on est en train de parler avec les opérateurs pour trouver la solution la plus pratique pour pouvoir couper le moins longtemps possible. Et comme dans la pré-étude, ils n'avaient pas prévu ça, et il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait cette fibre optique qui était là sur les poteaux, donc ça a obligé d'arrêter un petit peu. On devait fermer normalement la voirie avant les fêtes pour pouvoir faire déjà l'anneau. Donc les travaux reprendront vers le 15 janvier, et puis tous les réseaux électriques et téléphones seront enfouis. Donc l'entreprise reprendra et on donnera la date dès qu'on sera pour la fermeture de la voirie pendant 15 jours, 3 semaines. Les déviations seront faites par le département, puisque c'est une route départementale. Donc voilà. Achèvement printemps. L'entreprise essaye de tenir les dates, mais vu qu'il y a eu ce problème-là et qu'on n'a pas pu le gérer autrement, donc voilà. Malgré les pressions qu'on a fait, mais voilà.
Printemps
2020. Oui.
Merci, monsieur Barcalmé.
Oui. 2019, c'est passé.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention qui n'est pas de passage?
Voilà.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. Monsieur Marc Albert, acquisition d'une partie de la parcelle AP205 située chemin des Paludiers.
Voilà. Cette délibération n'est pas passée au conseil municipal, à la commission de travaux, puisqu'on l'a reçue entre la commission de travaux et puis le conseil municipal. Donc c'est une parcelle qui doit être affichée normalement à l'écran si on l'a, et c'est une parcelle de 1309 m² qui est juste située dessous la grande parcelle où il doit y avoir une OAP. Et voilà.
Elle est rétrocédée pour 1 € symbolique.
Elle est rétrocédée pour 1 € symbolique, oui, exactement.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de vote contre? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Marc Albert, convention Morbihan Énergie pour la deuxième tranche du boulevard de la Plage.
Non, oui, c'est les bornes 7. Les bornes 7 sont les bornes où les gens peuvent charger leur téléphone et leur vélo électrique. Il y en a deux et puis il y en a une troisième au bout du boulevard de la Plage, dans la deuxième tranche. Donc il y a pour un montant de 10 560 € TTC. Les deux premières sont installées. Il faut savoir qu'il y a une programmation horaire dessus, afin qu'on ne puisse pas s'en servir 24 heures sur 24. À la commission de travaux, il a été demandé si c'était payant. J'ai dit que non, parce que dans les aéroports, ce n'est pas payant, parce qu'on branche un téléphone un quart d'heure et qu'il faut mettre un système à carte bleue ou payer, qui serait plus cher que ce que ça rapporterait. Voilà.
OK. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, cette fois-ci, c'est fibre optique.
C'est les fourreaux des fibres optiques pour les caméras qui sont au boulevard de la plage. Donc, c'est une convention qu'on a signée avec Mobilier Énergie pour un montant de 20 640 € TTC, ce qui permet, avec la fibre optique, d'avoir moins de pannes avec les caméras et de ne pas avoir de coupures qui arrivent de temps en temps avec celles qui sont actuellement. Voilà.
Des questions ? Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours M. Marc Albert, cette fois-ci avec une convention Morbihan Énergie à propos des bornes marché.
Ben, c'est les bornes marché, avec l'extension, avec les travaux qui sont faits actuellement autour de l'église, au nord-église. Il a été pris de la décision de rajouter des bornes marché comme on avait pour le marché nocturne et sur le marché bi-hebdomadaire et également qui est à la plage, donc on a décidé d'en rajouter deux. Qui permettront justement, de, s'il y a besoin, de pouvoir mettre de l'électricité pour améliorer les marchés nocturnes ou autres. Et du coup, on a pris les socles, mais on n'a pas pris toutes les bornes. Comme ça, on pourra les déplacer entre le bourg et la plage quand on en a besoin. Donc, voilà. C'est des clips qui se mettent dessus.
Donc Marie-Bonne est très contente parce que les musiciens auront une alimentation électrique pérenne quand ils joueront sur la place, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des dernières étés. Ça a sauté quand c'était un peu humide. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce rapport ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. On passe tout au rapport numéro 27, boulevard de la plage, monsieur Marc Albert.
Donc c'est des socles pour les bornes, comme je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on n'a pas acheté toutes les bornes, mais on a mis des socles, et des coffrets de prise avec Morbihan Énergie, pour un montant de 19 440 € TTC, qui sont dans la deuxième tranche. Voilà.
Pas de questions non plus. Pas de vote contre. Pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a deux rapports dans le même esprit que le rapport d'ACTA. Donc, le conseil municipal prend acte et en prend connaissance. Le rapport Eau du Morbihan, avec la présentation du rapport d'activité 2018. Et puis, le rapport d'activité 2018 de Morbihan Énergie. Qui ont été mis à votre disposition et notamment une note de synthèse, je crois, qui figure dans le dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux rapports d'activité ? Donc, je considère que le conseil municipal a pris acte de ces deux rapports de présentation. Je vous remercie, Monsieur Lejean, l'indemnité au comptable public, un marronnier.
Oui, donc c'est juste une modification à faire suite au changement de trésorier, puisqu'il y a eu le départ de Monsieur Géretti, qui a été remplacé par Monsieur Boitourin, et donc il faut passer au conseil municipal, donc de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983, d'accorder à Monsieur Samy Boitourin, receveur de la commune, l'indemnité de conseil au taux maximum de 100%, selon les modalités fixées par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. L'indemnité de confection des documents budgétaires de 45,73 €. De dire les crédits nécessaires du budget de chaque année au compte 62-25.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce rapport ? Pas de commentaires ? Pas de vote contre ? Et abstention ? 3 abstentions. Et donc, le reste, c'est des votes pour. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Monsieur Oudois, aide aux familles carnacoises pour les séjours de l'année 2019-2020.
Oui, donc il s'agit de subventions pour les familles carnacoises pour des séjours donc, comportant une nuitée minimum organisée par un établissement scolaire carnacois ou par une association carnacoise. Montant établi en fonction du quotient familial et s'échelonnant donc entre 100 € et 40 €.
Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de commentaires particuliers, ni de vote contre, ni d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Une autre subvention, cette fois-ci pour le transport des élèves, pour les activités aquatiques.
Donc là aussi, c'est un vote habituel. En fait, le ACTA prend en charge 10 séances de piscine à la piscine Alréo. Et en fait, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge les transports des élèves pour se rendre à ces 12 séances de natation.
pense que là, tout le monde, pareil, tout le monde est unanimité. Je vous remercie. Monsieur Chapelle, sur les ressources humaines, et en l'occurrence les prestations d'action sociale du personnel communal, c'est-à-dire d'une mise à jour.
Voilà, oui, en effet, la dernière délibération municipale datait du 21 mars 1994 à propos de l'octroi des prestations d'action sociale en faveur du personnel communal. Il s'agit de la part communale qui vient éventuellement en complément de celle versée par la CAF. Entre-temps est intervenue la loi de 2007 et la circulaire de 2018, donc qui nous a incité, obligé finalement à mettre à jour ce tableau sans modification particulière. Alors, le tableau est très complexe. Je vous rappelle quand même les grandes lignes sans les chiffres. Philippe Charpentier sera là pour nous aider s'il y a des questions particulières, parce que c'est quand même relativement imbuvable. Le principe, on rappelle évidemment dans la délibération le champ d'application, les règles de plafond en fonction des revenus. Les pensions qui sont versées par la commune viennent là finalement en dernier recours. Voilà, vous avez donc les différents tableaux, les modalités de calcul aussi des prestations communales en fonction des revenus des trois dernières années. On rappelle aussi qu'en cas de changement évidemment de situation matrimoniale, il y a une mise à jour immédiate qui est faite. Et mais écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez tous lu les tableaux en détail, mais on est à votre disposition pour répondre aux questions.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Philippe, je crois que vous allez passer une bonne soirée. Il n'y a pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Chapelle, le dernier rapport de ce conseil municipal, la mise à jour des tableaux des effectifs.
Voilà, alors comme il s'agit dans ce bordereau de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste du cadre d'emploi des adjoints du patrimoine. Alors il ne s'agit pas évidemment de créer un poste, mais de créer le cadre d'emploi qui correspond au poste qui ne figurait plus dans le tableau des effectifs d'adjoints du patrimoine.
Il y a des questions ? Pas de questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour officiel de ce conseil municipal est épuisé. Je précise que ce n'était pas le dernier. Nous aurons un dernier conseil municipal qui se tiendra probablement à la fin du mois de janvier. Et je vous propose qu'à l'issue de ce dernier conseil, on puisse peut-être boire un petit verre tous ensemble pour le dernier conseil municipal de la mandature. Il y a une question diverse qui a été posée par M. Bonduel. Je vais laisser M. Lerouzic peut-être la poser.
Oui, tout à fait. Donc, cette question diverse concerne le permis de construire à Kergouret, qui est donc qui a été accordé en toute légalité, bien entendu, mais pour lequel on n'a peut-être pas forcément mesuré toutes les conséquences. C'est pour ça que mon collègue me demande de poser la question à sa place, puisqu'il est absent ce soir. Monsieur le maire, chers collègues conseillers municipaux, les bâtiments étoilés peuvent dans toute zone être rénovés ou modifiés sur certaines réserves. Les zones ENA et NDS définissent un secteur géographique naturel à préserver particulièrement sensible. Comment ces caractéristiques territoriales peuvent-elles cohabiter harmonieusement ? Dans un secteur naturel exceptionnel, qu'est la rivière de Crac, en prolongement du Guyenzer, les acteurs associatifs et professionnels de la mer se battent pour essayer de préserver tant bien que mal la faune, la flore et la qualité de l'eau. Est-il judicieux d'accepter et d'accorder un permis de rénovation d'un ensemble immobilier destiné à recevoir un très nombreux public de l'ordre de 150 personnes, voire plus avec le personnel, non concerné par la préservation de ce lieu exceptionnel et d'y construire des parkings d'une capacité de 60 places, avec un accès par la départementale 186 en plein virage, avec le risque fort d'accident, il y a déjà eu des accidents mortels sur cette route, lors de la sortie de ces véhicules pour rejoindre cette départementale. D'autre part, le dispositif d'assainissement sur un sol rocheux sans capacité réelle d'absorption et en pente présente un risque énorme de pollution dans un Guyenzer dont l'équilibre physico-chimique reste précaire. Enfin, sur ce secteur de nidification important, le bruit des soirées festives avec une sono bruyante risque une fois de plus de déranger la faune sauvage. Il me semble que nous ne pouvons pas rester insensibles à ces risques. Nous voudrions connaître votre sentiment sur ce dossier.
Merci de cette question. Effectivement, c'est un lieu magnifique. Monsieur Lorosic, vous avez été vous avez eu des fonctions municipales pendant suffisamment longtemps pour savoir que l'accord, la délivrance d'un permis de construire n'est pas liée à une opportunité, mais liée au respect de la loi. Dans ce dossier, quoi qu'on puisse penser de l'activité qui sera développée, la loi a été respectée de manière extrêmement rigoureuse pour ce qui concerne à la fois l'accessibilité PMR, les conditions de sécurité avec la commission sécurité qui s'est déplacée, qui a donné son avis, l'ABF qui a également été consultée, ACTA pour l'assainissement qui a donc été déclaré conforme. Je rappelle qu'il y a trois fosses, une de 9 mètres cubes et deux de 3 mètres cubes, qui a été déclarée donc totalement conforme. Le cabinet Bourgeois a également été requis pour donner son avis, et Relig, ainsi que la délégation générale des infrastructures et de l'aménagement. Quoi qu'on puisse penser de l'activité, le maire n'a pas le pouvoir de refuser un permis de construire qui a réuni tous les aspects de la légalité. Évidemment, je prends bonne note des préventions évoquées par M. Bonduel, et nous serons très attentifs au respect de l'ensemble des dispositions du permis de construire, y compris des dispositions liées aux nuisances sonores. Bien sûr, il y a les exploitants de ce lieu seront tenus de respecter la loi, et nous le ferons respecter. Pour ce qui concerne la sécurité, le département a aussi été consulté, puisqu'il s'agit d'une départementale, et donc il est compétent pour les questions de sécurité sur le site. Le département a également donné son accord. Donc, quand bien même je n'aurais pas trouvé, et je ne me permettrai pas de faire de commentaires sur l'activité, quand bien même le maire ou la commission urbanisme n'auraient pas goûté l'activité ou la nature de l'activité à cet endroit, il n'y avait aucun biais juridique pour en refuser le permis de construire. Donc, encore une fois, un maire est là pour appliquer la loi, je n'ai fait qu'appliquer la loi, et nous n'avons fait que délivrer un permis qui, dans toutes ses composantes, était parfaitement légal. Monsieur Lourdic ?
Mais c'est ce que j'ai dit. Il a été délivré en toute légalité. Mais on ne mesure pas forcément les conséquences, puisque ça fait à peu près 50 ans que le Guyonzer et la rivière de Crac sont pollués, en amont, par les stations d'épuration de Plémel, d'une part, qui va se brancher, puisque nous avons travaillé avec ACTA également, ou le cabinet Bourgeois, pour que Plémel vienne se brancher sur le tout à l'égout de Carnac, pour éviter de polluer donc le Guyonzer et la rivière de Crac. La station de Ploirnel a été mise aux normes également pour éviter de polluer, puisque donc il y a eu un travail entre les acteurs professionnels que sont les ostréiculteurs, les agriculteurs, la chambre d'agriculture, la section régionale de conchyliculture, puisque donc on sait très bien que cette rivière est polluée. On essaye de la nettoyer. Donc, il y a également des gros chantiers sur Carnac, le long du Guyonzer et de la rivière de Crac, pour mettre les villages au branchement tout à l'égout, de façon à éviter les pollutions. Et là, on a un ensemble commercial qui ne se branche pas au tout à l'égout, alors que le tout à l'égout n'est pas très loin, puisque c'est à Kergroix. Ce serait peut-être préférable que de faire des fosses qui vont recevoir à peu près 3000 litres d'eau usée par jour, 180 personnes à peu près, ça donne quand même pas mal de résidus. Est-ce que le sol peut vraiment traiter une telle masse d'eau, surtout que c'est en pente.
Ouais, mais là, je vous renvoie aux gens qui ont la compétence. Ce n'est plus la commune, vous le savez bien.
Voilà. Donc, c'est le SIAC. Mais peut-être que la commune peut prendre des dispositions en ce sens.
Lesquelles ?
On aurait pu demander un branchement au tout à l'égout.
Ben, on l'a demandé, mais c'est pas la décision qui a été prise par l'intercommunalité avec le propriétaire. Donc, je ne peux pas me saisir de compétences qui ne sont pas les miennes. Donc, encore une fois, ce dossier, j'entends bien ce que tu dis, Marc. Je pense que, voilà, quand on dit le Guyonzer est pollué, le Guyonzer était très pollué. avant l'installation de la, de la zone, avant l'installation de la station membranaire de Pouarnel, qui était la principale source de pollution. Il y a une, pollution résiduelle qui vient de PML, effectivement, mais on a des analyses assez récente de la situation sanitaire du Guyonzer, elle s'est considérablement améliorée et même on est passé d'une situation relativement catastrophique à une situation, en tout cas pour ce qui concerne l'eau, parce que je ne traiterai pas des sédiments, je pense qu'effectivement il y a eu une pollution pendant tellement nombreuses années dans le Guyonzer qu'il faudra probablement plusieurs dizaines d'années pour que les sédiments du lit de la rivière soient un jour complètement épuré de cette pollution, mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai des installations dont le certificateur me dit qu'elles sont aux normes, qu'il n'y a pas de risque de fuite. Donc, je ne peux pas me préempter d'un sujet ou déclarer une installation illégale alors que le certificateur a dit qu'elle était légale. Sinon, ce serait le fait du prince.
Un dysfonctionnement n'est pas à exclure. Donc voilà. Et d'une part,
C'est valable aussi pour d'autres maisons dans le secteur qui ne sont pas reliées au tout à l'égout. Ça peut être aussi chez un particulier.
Je ne critique pas, mais il faut faire la chasse aux pollueurs potentiels.
Ah, ça, je peux demander à M. Marc Albert, on l'a fait la chasse.
Une autre chose aussi, la départementale est très dangereuse, et notamment avec les bordures en béton qui ont été mises le long de la voie. Deux camions ont du mal à se croiser. Elles sont beaucoup plus dangereuses que sécuritaires. Et ce serait bien de modifier quand même le long de cette route parce que c'est très dangereux.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que
il y a pas mal de professionnels qui s'en plaignent.
Tout à fait. Et je me demande si l'accident mortel qu'on a eu d'ailleurs dramatique il y a 2 ans n'est pas lié justement à ces... Enfin, il est lié à d'autres considérations sur lesquelles on reviendra. Mais effectivement, ces bordures pour fréquenter cette route, je les trouve absolument pas sécurisantes. Et le réflexe quand le pneu mord ses bordures, c'est justement de donner un coup de volant. Et j'en ai parlé à François Goulard. Hein. Donc il m'a dit que son directeur des routes allait regarder ce sujet. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit un gage de sécurité, ces petites bordures. Dans un premier temps, elles ont été faites... ça fait au moins 20-25 ans qu'elles sont là, non, Marc de... Non. Ah oui. D'accord. Donc, je leur ai demandé d'analyser la chose et de voir si on ne pouvait pas les enlever parce que ce n'était pas forcément quelque chose de très sécuritaire. Mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. On pourrait peut-être buser. C'est clairement un des endroits les plus accidentogènes de la commune. D'abord, c'est très sinueux et ensuite, effectivement, y a, notamment la nuit, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se croiser. Bon, je vous remercie. Passez tous un bon week-end. Non, moi non plus. Bon week-end.